Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Thibaut, je suis le présentateur du deuxième groupe de la web radio, les webistes. Aujourd'hui, plus de 5 personnes vont venir nous expliquer leurs connaissances, leur savoir. Vont vous apprendre des choses et ça, c'est génial, hein. C'est à vous d'écouter avec attention ceux qui vont vous expliquer. Parce que vous pourrez ressortir ça à un dîner de famille, normal, tranquille. Un grand merci d'avance, même avant d'avoir commencé. C'est l'heure de la présentation. Écoutez bien attentivement, il y a 5 sujets. La place de la femme, l'influence, tranquille. L'argent c'est intéressant. Tout le monde aime l'argent, moi aussi j'aime l'argent. Et avec cet argent, moi je pars en voyage, voilà. Et quand j'ai plus d'argent, il faut que je me fasse de l'argent. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que maintenant, là, tout de suite, Iliana et Anaïs vont venir nous parler du féminisme. D'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier Lily. Elle n'est pas avec nous, elle a un petit problème. C'est les choses qui arrivent, c'est comme ça la vie. Donc, merci les filles d'être là. On lance le jingle et après c'est à vous, ok?
Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre chronique du jour, Féministe 2.0. Déjà, comment allez-vous?
Bien, et toi?
Moi ça va super. Alors pour commencer, je vais vous poser une question. Êtes-vous féministe?
Oui, enfin, c'est intéressant.
Mais sérieusement, est-ce que cette question, selon vous, devrait encore se poser? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, à mon avis, tout le monde devrait l'être, c'est logique, non? Surtout, d'un point de vue personnel, ceux qui ne le sont pas devraient être punis par la loi. Mais parlons un peu plus sérieusement. Savez-vous que le féminisme n'a pas toujours existé et que la France a été l'un des derniers pays à instaurer ce mouvement, plus précisément vers 1892. Et contrairement à nos voisins, les Américains, qui l'ont instauré en 1848. Vous imaginez 44 ans après.
Tout d'abord, parlons un peu d'histoire. Le féminisme a pris une grande tournure auprès de toutes les femmes car le premier droit que nous avons obtenu est celui du droit de vote dans les années 30, grâce à Louise Weiss. Déjà, plaçons le contexte. Première guerre mondiale, 14-18. Les hommes sont absents ou partis au front. Les femmes doivent prendre leur place et entrer dans le monde du travail. C'est de là que commence à naître leur sentiment de responsabilité et d'autonomie. Les femmes commencent enfin à s'affirmer.
En 1818, c'est un retour à la normale, mais le rôle des femmes dans l'économie est devenu très important. Mais bien évidemment, à cette époque, on s'en moque royalement. En France, le combat pour le droit de vote des femmes est toujours d'actualité, et c'est cette fameuse Louise Weiss, qui à l'époque était une jeune journaliste qui militait pour la paix, tranquillement, mais qui a fait bouger les choses. Elle fonda l'association Les Femmes Nouvelles, et elle s'inspira des féministes anglaises et américaines. Peu de temps après, elle décida de se présenter aux élections municipales, parce qu'évidemment, il faut voir les choses en grand, mesdames. Et elle a eu 18 000 votes. Louise Weiss et ses militantes firent beaucoup de manifestations, et en 1936, la voix de la femme fut enfin entendue.
Restons en histoire sur les droits que nous avons obtenus. Parlons de la loi de l'IVG, en quelque sorte, la loi sur la légalisation de l'avortement. Parce que oui, mesdemoiselles, ce sont les hommes qui ne connaissent rien à tout cela qui nous disent si oui ou non on pouvait garder un enfant. Et ce fut encore le nom d'une femme qui resta dans l'histoire, celui de Simone Veil, d'où la loi Veil. Elle en avait marre que la majorité des femmes aient recours à des avortements clandestins qui mettent souvent leur vie en péril. Alors c'est le 17 janvier 1975, 83 ans après le droit de vote, que le droit d'avorter a été légalisé en France. Mais encore aujourd'hui, en 2021, certains pays n'autorisent toujours pas ceci.
Je voulais donner mon avis personnel parce que, messieurs, imaginez à 15 ans, vous êtes enceinte. Je pense que vous aurez voulu avorter. Parce que, selon vous, c'est égoïste. Mais si cet enfant, vous ne pouvez pas assurer son éducation, lui donner un toit et de la nourriture, vous aurez aimé avorter. Et puis, pensez à toutes ces jeunes filles et femmes qui sont faites violer. Et je pense que c'est assez traumatisant. En parlant de viol, je pense que vous avez vu ce mouvement qui s'est produit sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, avec l'hashtag MeToo, qui a servi à de nombreuses jeunes filles et femmes de dénoncer leurs agressions sexuelles qu'elles ont subies au cours de leur vie. Autour de cet hashtag, j'ai vu une grande solidarité féminine et j'étais clairement hyper fière. Parce que je sais que c'est compliqué d'en parler, de porter plainte, mais parlez-en. Confiez-vous à la famille, des amis, mais parlez-en, n'ayez pas honte. Après, d'un côté, c'est compréhensible parce que quand un policier va vous voir pour vous demander « tu étais habillé comment ?» ou « pourquoi tu lui as pas dit non ?», je pense que vous pourrez clairement s'en passer. Et n'oubliez jamais, c'est jamais la faute de la victime.
Même si ce n'est pas un viol, chaque sifflement ou même un regard insistant nous met mal à l'aise. Sachez-le aussi. J'aimerais mettre des robes et des jupes en été sans qu'un homme de l'âge de mon père me regarde comme si j'étais un morceau de viande ou même ose me toucher. Parce que chaque geste que tout le monde prend pour un détail ont leur importance.
En plus, attendez, vous pensez sérieusement qu'on a besoin de votre avis ? J'ai pas besoin de votre avis sur la longueur de ma jupe ou de ma robe, ou encore sur nos poils, parce qu'apparemment vous trouvez ça sale. Mais alors rasez-vous si vous trouvez ça tellement sale. Mais ou soit les remarques sur mon maquillage avec vos blagues du genre peau de peinture, qui au passage ne font rire que vous. Mais excusez-moi, je dépense des centaines d'euros, vous pensez sérieusement que c'est pour avoir la même tête ?
Maintenant, vous vous demandez toujours si être féministe est une bonne chose ou pas. Vu le parcours que les femmes ont affronté pour être libres et avoir au maximum le même piédestal que les hommes, je pense que la question ne se pose même plus. Je pense que la majorité d'entre vous pensent que les féministes sont des femmes aux cheveux colorés et qui sortent nues dans la rue. C'est leur manière à elles de lutter pour que les choses changent. Non, n'en faites pas une généralité ou même un stéréotype, parce que les féministes ne sont pas tous comme ça. Je ne les critique pas, mais au contraire. C'est comme ça qu'elles se font remarquer. De toute façon, le féminisme, c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc si vous n'êtes pas féministe, vous êtes tout simplement sexiste.
Alors, merci les filles, merci Anaïs, merci Iliana, merci Lily, même si elle n'est pas là. Vous avez des questions à nous poser ou pas, non ? Bon, ok. Bon, ce sujet était super intéressant. Ce sujet était incroyable. Franchement, vous, derrière votre petite radio... J'espère que vous n'aurez moins d'avis négatifs sur le sujet qu'est le féminisme. Donc on va peut-être arrêter les critiques là-dessus, hein, parce que j'étais complètement d'accord avec tout ce qu'elle disait. Des fois, vous abusez. Maintenant, on passe à la suite. Et si un peu de mode, ça change un peu ou non du féminisme ? Pas trop. Parce que dans les deux sens, la mode a de l'influence et le féminisme aussi. Donc... est-ce que c'est bien d'être beau ou belle et être plus attirant ou être une personne moche avec un grand cœur qui sait donner de l'amour. Donc c'est pour ça qu'on va marquer une pause et on se retrouve juste après la musique. I'm still alive, juste après ça. Merci.
Lately
Salut à tous. Encore une fois, je suis entouré de nouveaux invités qui vont nous expliquer le nouveau sujet qui est l'aliénation à la beauté et l'influence de la mode. Donc, je remercie à Max, Antoine, Enzo et la sœur Bénédicte d'être ici qui va participer à une interview. Donc, je lance le jingle. C'est à toi, Antoine, juste après.
Donc bonjour à tous et bienvenue. Donc le thème du jour aujourd'hui, c'est l'aliénation à la beauté. Donc on prend en compte le fait d'être obstiné par des grandes marques de vêtements, l'abus de maquillage, le désir de toujours être plus beau ou plus belle. Donc Montesquieu se moquait déjà des gens hypnopulés par la beauté dans les lettres persanes. C'est donc un sujet qui ne date pas d'hier, comme vous l'avez compris. Donc pour éclaircir notre avis, on a décidé d'interroger des gens de l'école. Nous avons déjà la chance d'accueillir une sœur, donc bonjour.
Bonjour.
Donc je pense que les réponses vont être pas mal. Nous avons pu aussi interroger Madame Marquez, donc qui s'occupe de la communauté trinitaire, et on lui a demandé ce que pensaient les gens qui achètent des habits de marque et ce qui les influence sur elles. Voici son avis.
Et peut-être aussi d'autres qui n'ont peut-être moins les moyens et qui vont essayer de tout faire pour accéder, peut-être en dépensant beaucoup d'argent, et même s'ils n'ont pas les moyens, c'est peut-être pour être identifiés et reconnus comme faisant partie de cette catégorie de personnes qui peuvent accéder à ces marques.
Donc, pour rebondir sur le fait que certaines personnes n'ont pas forcément les moyens, mais ils essayent d'avoir ces vêtements de marque, limite juste pour avoir la marque et montrer qu'ils ont la marque, c'est quelque chose de négatif pour vous ?
Pas forcément. C'est une certaine reconnaissance. Alors peut-être que quand même, faut pas dire, mais peut-être qu'ils ont du goût quand même. Du goût. Mais c'est vrai que, quand on a un certain budget, parfois il ne faut pas se mettre en danger à cause de vêtements, parce qu'il faut quand même penser aussi à manger. Et donc peut-être qu'il y en a qui préfèrent dépenser, parce qu'il y a cette visibilité-là en tout cas, d'être connu. Voilà.
Alors, nous avons également pu interroger des camarades de classe afin d'avoir des avis de générations différentes.
Pourquoi aimez-vous être bien habillé ?
Ben, quand je suis bien habillée, je me sens bien, j'aime bien ma journée. Voilà, c'est pour le bien-être personnel.
C'est pour vous, que pour vous ou pour le regard des gens ?
Ben, c'est pour moi, c'est moi qui achète mes vêtements, c'est moi qui achète mon maquillage, c'est moi qui achète tout, donc bon.
C'est juste pour vous ?
Ben oui.
Et vous pensez quoi des gens qui achètent des habits de marque et tout ça, qui achètent beaucoup de marques ?
Ben, c'est leur vie, c'est eux qui achètent. Après, pour le regard des gens, comme porter de la marque, c'est être à la mode, c'est un peu inutile. Mais après, s'ils aiment bien ça, c'est leur style, il n'y a pas à débattre sur ça.
Et personnellement, vous trouvez que les marques influencent beaucoup sur le fait d'être bien habillé ?
Bah oui, parce que maintenant, si vous portez de la marque, vous êtes bien habillé, vous êtes à la mode. Que si vous portez des choses moins luxueuses, ben, d'un coup, vous portez, genre, vos vêtements n'ont plus d'importance.
Et vous, vous êtes prêt à suivre ce phénomène ?
Non, parce que moi, personnellement, j'aime pas trop les trucs de luxueuses. Et je m'habille dans des magasins normaux, quoi.
Alors, en effet, nous avons bien fait d'interroger deux générations différentes, car cela nous permet d'avoir un avis différent, car les jeunes ont souvent une vision différente du monde actuel, contrairement à l'ancienne génération, si je puis dire, qui a plus de recul sur la génération actuelle. Cette vague est de plus en plus présente, d'une part, par les réseaux sociaux, qui touchent de plus en plus de gens. Les jeunes sont de plus en plus omnibulés et de plus en plus tôt.
Nous avons la chance d'accueillir sœur Bénédicte Marie, donc bonjour ma sœur.
Bonjour.
Donc qui s'occupe de la communauté religieuse au sein de l'école Sainte-Trinité et nous allons donc lui poser des questions. Donc ma sœur, que pensez-vous des gens qui sont omnibulés par les marques mais qui veulent acheter de la marque pour avoir de la marque ?
Bien, alors d'abord je pense rien comme ça a priori parce que je ne sais pas pourquoi ils le font. Il faudrait discuter avec eux. Tu as employé le mot obnubilé. Obnubilé, ça veut quand même dire qu'on est fixé, qu'on a un certain intérêt, mais à un haut degré. Là, ça commence à m'interroger. Pourquoi cette obnubilation ? Alors, quant aux marques, je n'ai pas de réponse toute faite parce que j'entends bien depuis le début de l'émission que derrière cela, il y a une question de mode. C'est un peu évident, les marques en général sont à la mode, mais dans les marques, il n'y a pas que du négatif. Vous pouvez acheter une marque qui va coûter cher, parce qu'en général, les marques coûtent cher, parce que elles sont, par exemple, elles vous donnent du durable. Donc, vous achetez quelque chose cher, mais ça va vous durer de longues années. Alors là, intervient la question de la mode. Si ça dure longtemps, alors il y a certaines modes qui sont indémodables. Mais si vous mettez le prix, il y a peut-être derrière le souci d'acheter donc du durable ou de l'éco-responsable. À l'inverse, vous vous dites « je ne vais pas mettre cher dans des vêtements » et vous achetez à très bas prix. Est-ce qu'il n'y a pas une conséquence dans votre achat d'acheter? Il faut toujours discerner quand on fait un achat. D'où vient ce que j'achète? Alors, si j'achète à bas prix, je peux encourager le travail des enfants ou je peux poser un acte injuste parce que je ne vais pas acheter au prix coûtant. Enfin, je vais acheter à bas prix et donc les personnes qui vont être rémunérées sont mal payées. Du coup, l'acte de l'achat n'est pas un acte insignifiant. Il demande un discernement et, comme disait Benoît XVI, c'est un acte à la fois économique et moral. Donc maintenant, vous avez des personnes qui, quand elles achètent, font très attention à cela et se disent « je pose un acte et il a une conséquence sur les personnes qui vendent ». Quand vous refusez d'acheter quelque chose, forcément, ceux qui produisent vont se dire « ça ne marche plus ». Donc, il va falloir qu'on change notre moyen de production. Donc, on peut avoir une influence, pour retrouver le terme d'influence.
Bien, merci. Et on avait une dernière question. Que pensez-vous des gens qui sont aliénés par la beauté? En fait, il y a un phénomène de mode sur les réseaux sociaux avec des influenceurs qui vont vous montrer une image de beauté tout le temps. Et par exemple, les jeunes, même les jeunes un peu plus âgés, vont être omnibulés à montrer que de la beauté. Ils vont faire beaucoup de chirurgie parce qu'on leur montre ça. Ils vont beaucoup se maquiller. Ils peuvent pas se montrer autre que tout le temps beau. Et même ils vont aller à la salle de sport, mais juste pour avoir un corps et paraître. Et on voulait savoir votre avis sur cela.
Eh bien, tu viens d'employer le mot paraître. Paraître, c'est le contraire de être. Alors, si c'est pour... Alors, le maquillage en soi peut embellir une personne, pas de problème. Une chirurgie esthétique, ça veut dire qu'on refuse d'être ce qu'on est. Et un jour, je vais avoir des rides. Et ben, c'est parce que je commence à prendre de l'âge. Et ben, j'aurai des rides. Et c'est mon être. Il faut apprendre aussi à accepter ce qu'on est. Alors, ça n'empêche pas de faire un petit effort. Je vais faire attention à la manière dont je m'habille. Je peux mettre un petit maquillage. Bon, moi, je suis mal placée pour vous en parler parce que j'ai renoncé à tout cela. Et quelle libération! Mais à chaque fois qu'on met un masque, on n'est plus soi-même. Et on est dans le paraître. Et moi, ça m'interroge parce que je me dis, je suis la mode, je suis je fais de la chirurgie esthétique, je vais dans les salles de sport, toujours dans un déséquilibre. J'en fais trop puisque vous parlez d'obnubilation. Et là, on tombe dans un esclavage. Alors, pour des élèves trinitaires, ça vaut la peine de s'interroger parce que si je suis esclave, je suis plus libre. Et quand je me maquille trop ou quand je cherche à ne plus être ce que je suis, je mets un masque. Je ne suis plus moi-même. Donc, au niveau de la relation, ça me pose un problème.
Vous parlez de ne plus être soi-même. C'est vrai que si on montre tout le temps une image de beauté et on ne se montre jamais sans artificiel, c'est peut-être pas quelque chose de très bon si on le montre à une certaine génération et qu'on forme une génération à tout le temps être pas dans le naturel.
Mais moi, je plaiderais plutôt pour être dans le naturel, dans être soi. Et je vais vous dire, j'ai beaucoup voyagé et le critère de beauté, il est étonnant. Parce qu'en France, par exemple, alors maintenant, on en revient. On commence à voir des publicités pour « j'ai droit à mes formes, j'ai le droit d'être un peu forte ». Bon, donc vous voyez, les modes changent. Mais les femmes fortes en Afrique, ce sont elles qui sont belles. Donc tout est relatif. Donc, vraiment, ça demande... c'est intéressant les questions que vous vous posez, parce que On peut aussi tomber dans l'esclavage. Madame Marquez parlait des personnes qui vont se ruiner ou, enfin, en tout cas, dépenser l'argent qu'elles n'ont pas. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un engrenage. Donc, j'appelle à la liberté.
Ma sœur, vous parlez de liberté. Vous dites vous-même que vous êtes libérée de ces codes. Qu'est-ce que cela a fait ?
Ben, ça fait que je me sens beaucoup plus libre. Je gagne du temps, je gagne des soucis. Enfin, je me libère de soucis. Je vais vous prendre un exemple très concret. Je suis en habit religieux. Et alors évidemment, le matin, je ne me pose pas de questions, hein, ça va vite. Je rentre dans mon habit et c'est fini. Donc, je ne me maquille pas. Bon, tout ça, c'est un gain de temps et vraiment beaucoup de soucis en moins, sans compter tout l'argent qu'on économise. Voilà. Et alors, un jour, pendant 5 ans, j'ai été aumônier à la prison des Baumettes. Et j'avais donc fait le choix d'y aller en civil. Eh bien là, je me suis rendu compte à quel point notre habit religieux nous libérait. Parce que, bon, évidemment, pour y aller une fois ou deux par semaine, j'avais pas une garde-robe extraordinaire. Concrètement, j'avais 2 jupes et 2 pulls. Et je me suis aperçu que je me posais la question. Oh, demain, quelle jupe je vais mettre ? Est-ce que ça va aller avec le pull ? Bon, j'avais quand même choisi que ce soit simple, mais je me disais, oh, si je mets 2 fois la même chose, je vais lasser les détenus. Vous voyez, je me suis posé toutes ces questions. Et je me suis dit, mais mon Dieu, waouh, vive l'habit religieux, j'ai plus de soucis. J'ai compris que le port de l'habit religieux m'avait libérée de toutes ces petites tracasseries. Un exemple tout à fait concret.
Donc quand on vous entend d'en parler, cette annulation à la beauté qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est peut-être quelque chose de pas très sain en soi.
C'est l'aliénation qui n'est pas saine. La beauté en elle-même, elle a rien de... C'est plutôt une qualité, la beauté. C'est une valeur, la beauté. Mais
le fait d'être obsédé...
Le fait d'être obsédé qui ne va pas. On touche au regard de l'autre. Pourquoi je dépends tellement du regard de l'autre ? Et là, il y a une vraie réflexion à faire pour justement me libérer, être moi-même. Et acquérir une liberté intérieure par rapport au regard de l'autre. On est très très sensible au regard des autres. Alors c'est bien tant que c'est le respect de soi et de l'autre. Quand ça devient une obnubilation, il y a une question à se poser.
Merci ma sœur pour cette intervention, c'était très intéressant et on vous laisse avec la conclusion de ce qu'on a pu apprendre.
Alors du coup, en conclusion, l'aliénation à la beauté dépend de chaque personne et est propre à son avis. Cependant, cette hype a également des effets néfastes pour l'environnement. Par exemple, l'industrie textile pollue énormément et de plus en plus. Dans ces cas-là, nous parlons de fast fashion, qui est une mode éphémère ou express, un renouvellement très rapide des vêtements proposés à la vente.
Plusieurs marques très connues comme Zara, H&M pratiquent cette mode. Par exemple, pour résoudre le problème des réseaux sociaux, nous pourrions peut-être mettre en place des règles pour freiner ce mode de vie de pseudo-aliénation à la beauté et de plus en plus jeune.
Bon, avant d'en finir, j'aimerais bien vous poser une question à vous trois. Est-ce que pour vous, vous êtes aliénés par la beauté, vous trois ? Est-ce que porter des marques, c'est super important ?
Moi, je m'habille avec des marques pour un certain design et un certain style, mais je ne suis pas tout le temps comme ça et je ne suis pas obsédé comme on a dit tout à l'heure. Et des fois, je vais me coiffer pendant longtemps, mais des fois, je ne viens pas coiffer. Comme tu peux voir au lycée, des fois, je viens en vrac et... Justement, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne cherche pas à me montrer tout le temps parfait. Et des fois oui, des fois non.
Ça dépend.
Ça dépend.
Et pour moi, pareil, je porte des marques. Après, pas énormément. Donc, surtout, quand on achète des marques, pour moi, c'est surtout pour la qualité du vêtement. Ben, parce que souvent, on paye des marques très chères, mais la qualité est au rendez-vous, contrairement à des marques, par exemple, comme on l'a parlé, de fast fashion. Il y a des marques, souvent, la qualité est vraiment médiocre, quoi. On peut le porter 2-3 mois et après, c'est fini. Voilà.
Ok, merci. Pas d'autres réponses ? Bon. Merci, ma sœur. Merci, Enzo. Merci, Antoine. Et merci, Maxence.
Merci, Thibaut.
De rien. De nous avoir expliqué ce que c'est l'aliénation, ce que vous en pensez, surtout aux personnes qui ont participé à ce micro-trottoir. C'était génial. Donc, Alors, est-ce que, pour vous, est-ce que l'argent vous influence? Juste une petite question comme ça, là.
L'argent nous influence?
Ouais, est-ce que, genre, si vous avez beaucoup d'argent, vous allez être influencé? Si on vous propose un grand parquet, un grand... Par exemple, on vous dit, pour 10 000 euros, tu dois aller faire telle chose. Est-ce que vous le ferez?
C'est pas précis, telle chose.
Mais telle chose, imagine quelque chose, genre pour 10 000 euros...
Ça dépend ce que c'est.
Je sais pas, tu vas découper 5 arbres en Amazonie, enfin...
Oui. Si tu veux parler d'argent, j'avais entendu tout à l'heure, l'argent ne fait-il le bonheur?
Ouais.
Veux-tu que j'intervienne sur ça?
Ben oui, les gars, ça vous dit pas de rester, on marque une petite pause pour que la sœur puisse... puisse sortir en toute tranquillité et accueillir notre nouveau chroniqueur qui est juste là, qui gère les platines. Donc voilà, okay. Une petite pause de 2-3 minutes, juste le temps qu'on intervienne.
Oui, avec plaisir.
Rebonjour. Alors, on est toujours avec trois personnes que vous connaissez déjà, qui étaient déjà là tout à l'heure. Mais nous avons une nouvelle personne, c'est Aurélien qui était juste derrière les platines. Comment ça va, Aurélien?
Ça va et toi?
Bah, bien, bien. Donc aujourd'hui, là, tu vas nous parler de l'argent. Fait-il le bonheur ou pas, de l'aliénation à l'argent? Nous sommes plusieurs là sur le plateau pour que, à la fin, si tu as des questions à nous poser, on puisse interagir. Donc c'est à toi, on lance le jingle et après tu y vas, ok?
Je commencerai tout d'abord par citer Coluche qui disait « S'il y a des mecs qui ont du pognon et qui sont emmerdés parce que l'argent ne fait pas le bonheur, ils n'ont qu'à le dire. On trouvera toujours des pauvres assez cons pour le leur piquer. » Le principal fait à connaître est que, qu'on le veuille ou non, quand on est ou quand on devient riche, notre regard sur le monde et notre mode de vie changent tout autant que le regard des gens par rapport aux gens riches change également. C'est cela dont mon sujet va principalement traiter. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de personnes riches. Il y a tout d'abord, comme je les appellerai, les lambda de leur catégorie, qui vivent de leur richesse et qui en profitent un maximum. Il y a également les généreux, qui peuvent aussi être des lambda, c'est-à-dire qu'ils profitent de leur richesse, mais qui, contrairement aux autres, savent donner quand les autres en ont besoin. Je prends pour exemple les dons à des associations caritatives dont certaines personnes soutiennent et aident par le biais de leur richesse. Mais est-ce que l'argent fait réellement le bonheur? Est-ce que nous pouvons réellement faire rimer bonheur avec profit? C'est à ça que je vous invite à réfléchir. Quand on a trop d'argent et qu'on ne sait plus quoi en faire, on n'a plus d'intérêt de travailler dur pour s'acheter ce que l'on veut afin de nous faire plaisir. Car tout nous est accessible et plus rien nous donne de défi, un réel but à atteindre. Progressivement, cela devient habituel, on s'enlace petit à petit et le sens de la vie nous échappe vite. Avoir une source d'argent importante peut être un bienfait comme un certain malheur pour ce qui est de l'entourage, car on ne peut plus se fier à tout le monde. On ne peut plus distinguer le vrai du faux. L'être humain est assez intelligent pour cacher son jeu. On peut donc vite se laisser tomber dans son piège sans le savoir. Plus on a d'argent, plus on va avoir obligatoirement un entourage qui veut se rapprocher de nous pour cet argent et non pour la personne qu'on est réellement. Elles se foutront de votre but et ne chercheront qu'à atteindre les leurs. C'est un des plus grands fardeaux de la richesse et cela peut blesser plus que l'on ne le pense. Cela peut jouer sur le mental des personnes et également changer son caractère ou sa personnalité. L'argent peut également très vite monter à la tête et changer la personnalité de certaines personnes. On le voit notamment avec les célébrités. Après, on peut se poser la question, est-ce de leur faute ou est-ce celle des autres? Ce qui en vient à, les stars sont-elles réellement heureuses? Et vivent-elles réellement le bonheur parfait? Je n'exploiterai pas plus ce sujet que ça, car encore aujourd'hui, c'est une chose assez confidentielle, on peut le dire, dont on ne parle pas souvent par crainte d'engendrer des polémiques. Ce qui en fait ainsi l'envers du décor des célébrités. Donc, en additionnant tout ça au fait qu'en possédant une source de revenus assez importante, on ne possède plus pour une grande partie un but fixe à atteindre ou un rêve à réaliser, car plus rien ne nous arrête, tout est possible et que notre entourage est limité, on pourrait considérer que la richesse avec un grand R pourrait représenter un certain malheur et non une chance ou un bienfait en tout point. Sans en oublier l'importance de la famille et des amis qui représentent une grande partie du bonheur. À ne pas oublier qu'il y a plusieurs niveaux de richesse. Ici, je parle d'un niveau de richesse extrême à tel point qu'on pourrait appeler cela de l'argent facile. Il y a également des personnes qui travaillent dur pour avoir cette richesse et qui auront toujours un but et des rêves à accomplir, car un jour ou l'autre, tout pourrait s'effondrer. Ces mêmes personnes qui, eux, contrairement aux autres, d'un niveau encore plus extrême, ne peuvent pas s'acheter le monde entier. Après, on peut toujours utiliser notre argent pour des rêves qui ne sont pas les nôtres. Mais le fait d'accomplir le rêve des autres quand ils n'en ont pas les moyens peut nous procurer une certaine forme de bonheur ou d'accomplissement. Je prends pour exemple, comme je l'ai cité tout à l'heure, qu'on peut très bien donner de l'argent à des associations caritatives qui essayent d'aider justement ceux qui n'ont pas les moyens de s'aider soi-même, que ça soit par manque d'argent ou autre. Et le fait de sauver des vies, comme le font certains en quelque sorte, peut donner une nouvelle sorte de bonheur qu'on pourrait qualifier de réjouissement pour certains. On pourrait donc qualifier l'argent comme une sorte de pouvoir. Après, à savoir pourquoi est-il destiné. Dire que je me répète, mais c'est juste qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à cela, sur les bienfaits et les méfaits de la richesse, que c'est assez complexe d'en parler à l'oral et ce qu'il faut, c'est le comprendre. Pour conclure, je dirais donc que personne ne peut avoir la vraie réponse sur est-ce que l'argent fait le bonheur ou non. De mon point de vue, l'argent à un certain point peut représenter une partie du bonheur, mais non le bonheur en lui-même, car l'amour et la famille ne s'achètent pas avec des billets verts. C'était Aurélien Faugère sur l'importance de l'argent. Merci aux auditeurs de m'avoir écouté.
Bah, c'était super Aurélien. Franchement, c'était super intéressant. Ton monologue était génial. J'aimerais juste, si tu as des questions à nous poser, c'est pour ça qu'on est plusieurs ici au plateau. Si tu as des questions à nous poser, pose-les. On y répond brièvement et rapidement.
Alors déjà, j'aimerais savoir si vous avez des critiques, des points contraires par rapport à ceux que je viens de vous citer.
Moi, je n'ai pas de critiques ni être contre ou pour. Je ne sais pas où me placer au niveau de l'argent, vu que je ne suis pas une personne qui a des parents qui gagnent beaucoup qui a des parents qui ne gagnent pas assez. Je suis vraiment entre le strict milieu. Mais quand je m'imagine être une personne, je m'imagine en étant une personne riche. Moi, je suis sympa. J'aime bien donner aux gens quand ils en ont besoin. Donc, je ne sais pas où me placer. Je serais peut-être une personne lambda qui aime bien faire des dons. Mais j'aime bien aussi l'argent parce qu'on peut tout s'acheter après.
Et c'est justement à ça que j'aimerais te faire réfléchir. C'est que tu penses à ça aujourd'hui, mais peut-être avec la richesse qui te monte à la tête, tu n'aurais pas le même point de vue.
Moi aussi, j'avais un truc. À un moment, tu as dit... ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ont plus de buts dans la vie, ils ont plus de défis et tout. Mais en fait, je suis pas d'accord avec ça parce que ceux qui ont beaucoup d'argent, en fait, ils ont déjà accompli leurs défis. Par exemple, Jeff Bezos, quand il a commencé, il était dans son garage. Enfin, ça, c'était son défi de par exemple créer Amazon. Et il a, à la fin, là, c'est l'homme le plus riche du monde. Du coup, il a un peu accompli son défi. Il a réussi. Donc, je pense que son défi là, il a accompli, même s'il a beaucoup d'argent.
Oui, mais justement, je n'ai pas dit qu'ils n'ont jamais eu de but. Je dis juste que à cause ou grâce à cette richesse, chacun son point de vue, ils n'ont plus de but pour leur vie future. Car comme tu l'as cité, Jeff Bezos, qui ont une richesse vraiment importante au sommet du niveau social, tout est accessible pour eux et il n'y a plus rien qui les arrête.
Ouais, je suis d'accord aussi, mais là le but aussi c'est de continuer à garder cette richesse, bon même s'il la gardera, mais de continuer à faire fonctionner par exemple Amazon et de, je sais pas comment dire, voilà.
Pour y réagir, je pense qu'il y a certains défis qu'on peut pas si on n'a pas d'argent et si on veut faire le tour du monde, veut tout découvrir, l'argent il nous donne accès à ces défis, donc... Je sais pas pour les personnes riches, mais en tout cas pour les personnes qui n'ont pas les moyens, l'argent rendra certainement plus heureux. Après, c'est vrai, comme tu as dit, la famille et tout ça, si on a perdu un proche, ça va pas réconforter, mais on sera quand même mieux si on peut passer autre que ce moment de deuil et l'argent nous permet de faire ça.
Ça dépendra toujours à quel niveau de richesse tu es. Tu auras toujours un point de vue différent. Si tu es riche, tu pourras peut-être moins penser à la famille qu'à l'argent. Et quand tu es pauvre, la famille est peut-être ce qui t'importe le plus dans ta vie. Mais la richesse est aussi recherchée pour que tu puisses accomplir tes rêves.
Ok. Merci Aurélien. Merci. Merci Aurélien qui est de base à la technique. Et donc c'est l'heure de faire un petit passage, un petit remerciement à la technique aussi qui est encore là. Je vous remercie les gars, c'est génial. Vous êtes vraiment au top. Bon. L'argent vous influence peut-être pas, l'argent ne fait peut-être pas le bonheur. Mais il y a une ville très connue où beaucoup de stars y vont, parce que là-bas, la Twingo, c'est une Ferrari en fait. Donc c'est Dubaï. Et c'est trois filles, c'est Jeanne, Faustine et Emma, qui vont venir nous parler de Dubaï. Est-ce qu'elles en pensent ? C'est la rubrique voyage.
Thank you.
C'était Longing que vous venez d'entendre. C'était un très bon son, vraiment cool. Et pour ce sujet cool, nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les représente parce qu'il y en a, c'est des poissons, ils font le tour du bocal, ils reviennent, ils les oublient. Donc Faustine, Emma et Jeanne qui sont ici pour nous parler de Dubaï. Et donc les filles, je vous laisse juste après le jingle, vous faites ce que vous voulez, ok?
Ok, donc aujourd'hui on va donc parler de Dubaï, comme Thibault l'a dit. Cette fameuse ville est aujourd'hui devenue une des destinations les plus prisées par les stars et d'autres personnes ordinaires, que ce soit pour y passer un séjour agréable ou pour y travailler. Avec ses belles coupes architecturales, son économie en plein essor et sa culture, Dubaï pourrait faire penser à un mirage dans le désert. Mais entre rêve et réalité, pensez-vous que Dubaï représente une bonne destination de voyage ?
Alors oui, c'est vrai que cette ville compte maintenant 3 millions d'habitants et est devenue la première destination touristique mondiale. Son évolution touristique débute en 2005 suite à l'arrivée de Cheikh Mohammed au pouvoir. La ville de Dubaï, elle a su évoluer jusqu'à devenir le lieu idéal de vie pour de nombreuses personnes. Ainsi, la ville attire désormais les touristes les plus riches qui sont à la découverte de nouvelles expériences dans un cadre de vie magnifique, moderne, mais surtout très luxueux. Personnellement, j'adorerais y aller. Les paysages sont tellement beaux et il a l'air très tranquille d'y vivre. J'ai vu tout ça sur les réseaux sociaux de nombreux influenceurs.
Eh bien justement, c'est ce dont je voulais que l'on parle. Cette population riche de Dubaï est beaucoup représentée par des influenceurs ou d'autres stars, qui, en le voulant ou non, attirent beaucoup de touristes dans cette ville par leurs publications sur les réseaux sociaux où ils mettent en avant les aspects positifs de Dubaï. C'est donc grâce à leurs posts et stories que tu as eu envie d'aller là-bas.
Effectivement, c'est grâce à ces posts que j'ai découvert cette ville. Mais elle semble tellement parfaite qu'il est difficile de ne pas avoir envie d'y aller. Son apparence futuriste est très belle et originale, et la vie là-bas semble tellement parfaite.
Certes, Dubaï, à force d'être médiatisée, est beaucoup perçue comme une ville dite parfaite, avec un cadre de vie idéal, mais je vais essayer de te montrer les nombreux points négatifs qui se cachent derrière cette apparence futuriste et luxueuse. Déjà, les droits humains ne sont toujours pas respectés. En effet, là-bas, beaucoup de migrants sont embauchés car ils représentent une main-d'œuvre à bas coût, et très peu de ces migrants sont payés dans un délai raisonnable et correctement. Cette ville en plein essor comporte une population de migrants très pauvres, à côté d'une population riche qui médiatise cette ville comme un lieu idéal de vie. Donc non, là-bas, la vie n'est pas parfaite pour tout le monde. Au contraire, beaucoup de migrants et de personnes pauvres sont limite les esclaves d'une personne de population qui est quant à elle très riche. Personnellement, je trouve ça inacceptable.
Effectivement. D'ailleurs, la mauvaise rémunération des travailleurs n'est pas la seule enfreinte aux droits humains. Par exemple, aux Émirats Arabes Unis, les femmes ne sont pas libres de faire ce qu'elles veulent. Elles sont soumises à leur père ou bien à leur mari. Et ont aussi l'obligation de se recouvrir entièrement le corps. Ainsi, les décolletés et toutes sortes de vêtements trop courts sont interdits aux habitants et touristes de Dubaï. Donc, la question est... As-tu toujours envie d'aller dans une ville ne respectant pas les droits de chacun ? Une ville qui profite du statut peu élevé de ses résidents pauvres ?
Je vous avoue ne pas savoir tout ça. Il en est fait vrai que Dubaï ne soit pas si idéal que je le pensais. Mais malgré cela, Dubaï a quand même de nombreux côtés positifs. Par exemple, beaucoup de personnes déménagent à Dubaï pour profiter de ses infrastructures luxueuses et gigantesques qui sont, on peut se le dire, magnifiques, non ? On trouve aussi des paradis fiscaux qui permettent de développer une entreprise bien plus facilement que dans d'autres pays ou États. Bien que cet aspect économique ne m'intéresse pas, c'est un point assez important pour de nombreuses personnes se lançant dans l'entrepreneuriat. Et puis moi, personnellement, je suis beaucoup attirée par l'activité touristique de la ville, avec la possibilité notamment de faire du shopping dans de très bonnes conditions. On trouve par exemple des centres commerciaux et des souks, ainsi que de gigantesques galeries marchandes comme le Dubai Mall, qui est le plus grand des centres commerciaux aux Émirats Arabes Unis, ce qui fait en plus de Dubaï une des capitales du shopping.
Effectivement, les conditions touristiques sont très bonnes, seulement le shopping, ayant de grands avantages économiques, entraîne un grand nombre de répercussions climatiques, car cette ville luxueuse entraîne la consommation ainsi que la surconsommation. Donc même si le shopping est une activité que les touristes affectionnent particulièrement, elle n'a rien de positif en ce qui concerne l'environnement et l'écologie.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. De plus, je trouve totalement ridicule que les rues marchandes extérieures soient chauffées durant les périodes fraîches. En effet, Dubaï consomme donc une grande quantité d'énergie qui est gaspillée et bêtement relâchée dans l'atmosphère. Si on y ajoute les nombreuses autres activités touristiques de la ville, comme le ski en salle, le jet en mer ou bien le quad dans le désert, Dubaï est une ville ayant une empreinte carbone très importante.
et mauvaise pour notre environnement. Franchement, même avec ses nombreux aspects positifs, je n'aimerais pas y aller. Tu n'es pas d'accord avec moi ?
Eh bien, il est vrai que ça ne me donne plus trop envie d'y aller. Mais en même temps, cette ville est si belle. En plus, on a la possibilité de caresser des animaux sauvages dans les eaux de Dubaï. Moi, je trouve ça génial, pas vous ?
Tout à fait. À Dubaï, il est aussi très fréquent de tomber sur des animaux sauvages ou rares, comme par exemple des lions, des singes ou encore des tigres. Ils sont alors tenus en laisse et il nous est possible de les caresser.
Et oui, en plus, ça nous permet de découvrir des animaux sauvages, d'en apprendre plus sur eux et de pouvoir créer une passerelle entre nous et ces magnifiques animaux.
Oui, tu as en partie raison. Seulement, la plupart de ces animaux ne sont pas destinés à être domestiqués et certains sont même en voie d'extinction. Ces animaux sauvages sont contraints à se soumettre à l'homme, à poser sur des photos destinées à récolter des likes sur les réseaux sociaux. Les Émirats Arabes Unis est l'un des pays qui concentre un grand nombre de zoos privés destinés à louer ou à vendre des animaux souvent sauvages. Pensez-vous normal que les animaux soient utilisés seulement pour mettre en avant Dubaï ?
Effectivement, je n'avais pas tourné la question dans ce sens. Maintenant que j'y pense, cette ville ne me donne plus trop envie de la visiter, bien que je n'exclue pas cette possibilité pour autant.
Donc, voilà, je pense qu'on va conclure ce débat comme ça. Voilà.
Ok, bon, merci les filles. Tout était très intéressant sur le sujet des animaux, sur le sujet écologique. Et il y a juste un truc sur l'écologie que vous n'avez pas abordé, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais entendu dire que dans les centres commerciaux, les grands centres commerciaux de Dubaï, apparemment, ils mettraient de la clim sous les sols de presque tout Dubaï. Et ça pas augmente encore plus l'empreinte carbone ou...
Effectivement, j'en ai légèrement parlé pendant le débat, mais ils chauffent effectivement les sols et galeries extérieures, ce qui fait un gaspillage d'énergie énorme et très mauvais pour l'écologie.
Finalement, Dubaï, c'est pas génial. Mais imaginez, vous arrivez à Dubaï, vous voulez créer un commerce, sauf que bam, d'un coup, confinement. Hop, c'est la cata. Il y a deux potes à moi qui vont venir juste après. Ils m'ont dit mec, on peut t'aider. Si tu veux, on peut créer un e-commerce pour toi. J'ai fait quoi, vraiment? J'ai fait bah c'est génial. Venez quand vous voulez. Moi je vous dis, après une petite musique, Vanduji here for you. On vous donne toutes les informations pour créer un e-commerce et devenir riche comme un Jeff Bezos ou un Elon Musk. C'est à vous de voir. Allô ? Oh. Allô ?
Ouais, ouais.
Ah, t'es là, frérot ? Ah, j'ai besoin de ton aide. Je suis à Dubaï et tout, je suis emménagé et j'allais ouvrir un commerce. D'un coup, on me dit pas il y a confinement parce qu'il y a une sorte de maladie bizarre. Et donc, moi, je sais que tu fais du e-commerce. Explique-moi tout, je veux tout savoir en détail. Hé, vas-y !
Ok, calme-toi. Je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Enfin, c'est plutôt un ami à moi qui va t'expliquer. Je lui laisse prendre la parole.
Alors apparemment vous en avez marre de votre misérable salaire, de trimer pour un patron, de ne pas pouvoir partir en vacances dans votre destination de rêve. Alors apprenez à faire énormément d'argent avec nous. Stop les tabous et les fausses connaissances, bienvenue sur TCG Industries. Aujourd'hui on va parler business, plus précisément de comment créer un business en ligne. Autrement dit, pour le raccourci du ciboulot, on va vous apprendre à devenir riche et à changer votre vie.
Ouais, mais c'est pas accessible pour le haut commun des mortels.
Vous ne pensez pas avoir les connaissances requises, ne pas être assez intelligent, ne pas avoir assez de temps ou encore un tas d'autres excuses bidons? Eh bien, stop les croyances limitantes, c'est fait pour tout le monde. Il suffit juste d'avoir un ordinateur et une connexion internet. Vous pouvez travailler n'importe où, n'importe quand. Vous pouvez même vous lancer sans études, bien qu'il soit favorable d'en avoir faites pour gravir les échelons plus rapidement. Au pire des cas, vous pourrez trouver des informations totalement gratuites sur internet. Stop les blabla, nous allons passer aux choses concrètes. Tout d'abord, nous allons nous intéresser aux bases et à quelques notions importantes du marketing. Il est essentiel de posséder un site internet. Ce sera le cœur de votre projet. Vous allez me dire, mais comment faire ? Aujourd'hui, pour créer un site internet, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances en codage. Des tonnes de plateformes proposent des sites internet déjà prêts, où il suffit de les modifier. Vous pouvez aussi déléguer la tâche à un pro. nous allons partir sur un petit tuto avec quelques tips pour créer votre site internet. Vous êtes prêts? C'est parti! La première chose, et qui est la plus importante, c'est l'interface. On est d'accord que lorsqu'une interface est dégueu et illisible, ça donne pas envie. Si le vôtre n'est pas attractif, les visiteurs de votre site ne voudront pas y assister. Alors optez pour des animations attractives. Il faut penser à tout ranger par catégorie. On peut par exemple ajouter une barre de recherche pour les produits et services de votre site. Ainsi, la navigation à l'intérieur sera plus agréable. Sans serveur stable, votre site pourrait crasher souvent et ce serait mauvais pour vous. Alors il faut s'assurer d'être sécurisé et d'avoir un bon accès au réseau pour que votre site ne se retrouve pas en mauvaise posture face aux utilisateurs malveillants. Veillez évidemment à respecter l'avis des consommateurs et des utilisateurs pour éviter que la CNIL ne vous tombe dessus et que vous soyez blacklisté. Respecter la loi est une règle d'or, alors il est évident de ne pas poster de choses malsaines.
Et comment me conseillez-vous pour nous mettre en avant?
Une fois tout cela mis en place, il faut que votre site soit connu. Et pour ça, vous avez deux solutions s'offrant à vous. Une méthode payante et plutôt efficace, puis une gratuite mais se basant sur le bon vouloir des utilisateurs. La première se distingue en deux catégories. Soit se promouvoir sur des sites et réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, soit demander des placements de produits ou payer des influenceurs pour qu'ils vous fassent de la pub. La seconde méthode consiste à vous faire monter en haut de la page sur les moteurs de recherche lorsqu'un utilisateur tape un mot-clé. Cette méthode peut être aussi payante. Parlons à présent du e-commerce. Et pour cela, nous allons écouter une interview faite par un de nos hommes, pour le professeur Romain Roublard, expert en commerce en ligne, lui-même possédant son propre site à succès.
Bonjour monsieur Roublard, nous avons invité pour que vous puissiez éventuellement répondre à quelques-unes de nos questions sur le sujet du e-commerce et de son fonctionnement.
Allez-y monsieur, mes sources sont 100% fiables. Tout ce que je dis est véritablement véridique. Je n'aurai aucun mal à vous répondre.
Commençons alors avec notre première question. En quoi consiste le dropshipping et est-ce une méthode légale de commerce en ligne?
J'aurais parié toute ma fortune, et Dieu sait qu'elle est immense, que vous me poseriez cette question. Eh bien, pour vous répondre, le dropshipping consiste à ne posséder aucun stock de produits et que ce soit le fournisseur qui expédie directement l'objet au consommateur. Grâce à cela, le transfert de produits entre vendeur et acheteur est plus aisé. D'ailleurs, en parlant de cela, je possède un site que je conseille...
Monsieur, pouvez-vous rester sur les rails de notre interview, s'il vous plaît?
Tout à fait, excusez-moi, je retombais dans mes travers. Pour le cas juridique du dropshipping, c'est totalement légal. C'est seulement que de nos jours, en 2021, quelques individus mal intentionnés se servent de ce système de vente, de livraison pour vendre des contrefaçons. Alors ne vous faites pas piéger, je connais un site totalement fiable, c'est le mien. Et
il force vraiment sur son site, mais attention, ce n'est pas fini.
Passons à la seconde question. Connaissez-vous une technique pour faire vendre plus facilement les produits?
Tout à fait que j'en connais une. Elle s'appelle le copywriting. Cela consiste à manipuler l'utilisateur en lui faisant croire qu'il a affaire à l'offre de la décennie sur votre site. Pour faire simple, vous préférerez toujours acheter un t-shirt de 80€ en réduction à 25€ plutôt qu'un t-shirt vendu à un prix original de 25€. C'est l'une des méthodes de manipulation les plus efficaces qu'il existe. En tout cas, sur mon site, vous n'aurez pas affaire à ça, nous sommes honnêtes.
Et connaissez-vous notre méthode peut-être?
Bien entendu, vous me prenez pour un bleu. Il y a aussi ce qu'on appelle le retargeting de clients. Cela signifie viser un client pour lui envoyer des mails après qu'il ait consulté votre site. Lui offrir des réductions et des privilèges le forcera à revenir chez vous. On ne fait pas ça sur notre site, nous n'y voyons pas l'intérêt, car l'argent coule à flot.
Attention, le meilleur arrive.
Sans votre respect, je me suis renseigné sur votre site et beaucoup de clients se plaignent de spam par email. Comment le justifiez-vous?
Comment? Impossible, monsieur, notre robot ne ferait jamais une telle chose. Le spam est une chose absolument...
Vous voulez dire que votre envoyeur de mail automatique aurait un problème?
Non, pas du tout en fait. Excusez-moi, c'est tout à fait normal. Spammer est la meilleure manière pour faire revenir quelqu'un sur votre site. C'est en forçant les gens qu'ils céderont.
Ouais, pas sûr que ça fonctionne, sa technique. Quoi qu'il en soit, passons à notre dernier point, et pas des moindres. Les publicités liées à votre site, oubliez les tricheurs qui utilisent Adblock. Ce ne sont que des anticapitalismes. Avant que vous ne fassiez un faux pas, sachez que le plus captivant sera une vidéo et non une simple photo publicitaire. Il faut que cette vidéo soit rapide et fluide, voire même accélérée. Vos clients s'en fichent de vous, il faut immédiatement capter leur esprit. Dans cette vidéo, il faudra que le produit apparaisse et qu'on comprenne immédiatement son utilité. Il faut également...
Hé, hey, Patoche, dis, t'as vu les réductions chez Super U ? Leurs taboulés sont à moitié prix.
C'est cool, Barnabé, mais le taboulé, c'est pas très très bon.
Mais Patoche, moi non plus, j'aime pas le taboulé. Mais à ce prix-là, ça se refuse pas.
T'es sûr, Barnabé ?
Ben ouais, on se fait un brunch avec Eros dimanche. Tu nous rejoins ?
Bon, si c'est à moitié prix, c'est que ce sera deux fois plus bon. Je viens avec ma cuisse de chatte.
Avec les réductions chez Super U, prenez deux fois plus de plaisir en dégustant votre taboulé entre amis. Alors n'hésitez plus, Super U, à 2 heures de chez vous.
On est vraiment bon ce taboulé.
Pour renforcer votre image de marque, et voilà comment vous allez booster votre site à travers la publicité sur Internet.
Quoi ? Vous venez de lancer la page pub pendant que j'expliquais le point le plus important ? Comment ça ? C'était les créneaux pub ! Fallait m'en parler avant ! Ras le cette radio ! Ras le que des non, je me casse pas ! C'est la troisième fois cette semaine ! Laisse-moi passer, Thierry ! On me met pas sinon ! Pousse-toi au
Bonjour, je suis Thierry. Je vais terminer le sujet de notre présentateur qui a eu un petit contretemps. Alors, finissons avec les avantages et les inconvénients de notre business en ligne. Premièrement, vous n'aurez pas besoin de locaux si vous faites du dropshipping. Donc, pas de grandes dépenses d'argent. Ensuite, vous pouvez être efficace sur une plus grande zone géographique. Et plus besoin de patron qui vous fait trimer pour le coup. C'est vous le chef. Les inconvénients qui en découlent sont une stabilité moins sûre, une possibilité de piratage et enfin la grande concurrence qui existe sur Internet pour très vite vous occulter. Merci de vous avoir écouté et à la semaine prochaine pour une chronique.
Merci les gars, c'était incroyable. Là j'en ressors plus grand et mieux. Oh là là, si je me fais pas une tonne de pépettes à Dubaï, il y a un problème. Merci, c'est la fin de cette émission. Malheureusement, oh, ça me brise le petit cœur. Ça me sent pas très bien. Mais je remercie quand même ce grand travail d'acteur. Adrien qui a remplacé Thomas, même si vous avez pu l'entendre en petit passage, voilà. Je remercie Julien et Colin qui ont été les personnes spéciales dans la pub et tout. C'était vraiment incroyable, c'était franchement très abouti et ça j'adore. Maintenant c'est l'heure de finir par les remerciements. Alors pour l'émission, nous remercions la direction, Monsieur Méry et Madame Prin-Abeille, pour avoir autorisé ce projet au lycée Sainte-Trinité. Notre invitée sur ce plateau, Sœur Bénédicte Marie, qui nous a accordé du temps en ce jeudi saint pour répondre à nos questions. Christelle, de l'association des web reporters, et Thomas, technicien dans l'association Mossus Prod, pour leur accompagnement, leur professionnalisme et leur enthousiasme communicatif était génial. Ça m'a mis bien personnellement parce qu'au début j'étais stressé, mais là ça va super. Hein, c'est notre première fois, donc franchement ça a été très cool. Mais c'est pas fini. Nos professeurs, Madame d'Armagnac, Monsieur Frézeau et Monsieur Nessiri et Madame Guipert, qui nous ont accompagnés tout le long de ce projet incroyable. Enfin, j'aimerais remercier vous, nos chers auditeurs, qui nous écoutez en ces temps peut-être difficiles, qui est le confinement. Voilà, j'ai pris une voix bizarre, j'avais l'impression d'être Nicolas Sarkozy. Merci de nous écouter. C'était Thibaut, c'était des sujets magnifiques. J'espère que vous en sortez grandi. Et à bientôt sur la voix radio des webistes.